Donc, parmi vous, évidemment, il y a les étudiants habituels du CIF, puisque cette journée fait partie du programme, si je peux dire, et puis donc des deux années. Et puis, il y a une vingtaine de personnes qui viennent vraiment pour la journée. Comme vous êtes mélangés, ben, c'est l'occasion aussi de peut-être faire connaissance, d'entendre parler de l'intérieur de ce qui se fait au CIF. On est aussi quelques-uns à avoir des badges. Il y a Pascal Aertz, qui est notre financier, Anne Riguini, qui est enseignante. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler si vous voulez avoir plus de renseignements. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Audra Gauzin, je suis la présidente du CIF, et je donne aussi le cours d'anthropologie qui va commencer lundi, en première année. Bernard Clazen, prêtre, est le directeur du CIF. Et donc, cette journée, elle s'inscrit dans un parcours qui se fait en deux ans, et qui est un parcours d'approfondissement de la foi, d'intelligence de la foi, avec un parcours qui s'adresse vraiment à tous et qui a l'ambition de remettre un peu les choses en place, de redonner du sens, un contenu à ce que nous croyons, d'une manière construite et avec une certaine exigence intellectuelle, mais en même temps vraiment accessible pour tout le monde. On essaye de décrypter les choses, de ne pas jargonner, de laisser, dans la mesure du possible, de la place aux questions. Et ce parcours, il se déroule en six trimestres. D'un côté, on a un cours par semaine, et il faut savoir que le cours se donne à 2 heures ici, un cours de 2 heures qui se donne à 14 heures ici, mais qui se donne aussi maintenant en Zoom, à 20 heures le soir. Et c'est comme ça qu'on a maintenant la chance de recevoir des étudiants qui le suivent de province, dont certains sont là aujourd'hui, sont venus pour la journée, parce qu'on a, pour eux, on n'a pas tellement d'occasion de se voir en vrai. Mais sachez-le, c'est important à savoir, parce qu'il y a des diocèses qui sont quand même très démunis en formation et le CIF peut peut-être leur rendre service. Et puis à côté du cours, il y a un groupe, une fois par mois, avec un accompagnateur qui est formé en théologie. Et pendant 2 heures et demie, on travaille sur un texte et c'est l'occasion d'échanger, de débattre, de poser ses questions. Voilà. On n'a pas toujours, c'est pareil, beaucoup d'endroits où on peut échanger sur la foi d'une manière un petit peu, qui ne soit pas du café du commerce, qui soit un petit peu structurée. Donc cette journée, elle s'inscrit dans le parcours. Tous les ans, il y a une journée consacrée à la découverte d'une autre religion ou d'une autre confession. Ce n'est pas tant de la curiosité que de se dire c'est important d'aller à la rencontre des uns des autres, d'abord pour permettre un meilleur dialogue. Mais ça fait partie toujours de la même idée, c'est que c'est dans cet échange et dans cette découverte de l'autre qu'on est amené à approfondir et à réfléchir d'une manière plus exigeante à sa propre foi. Quelques indications pratiques. On aura une pause à l'heure du déjeuner entre 12h15 et 13h30. La pause est un peu courte pour qu'on ait le temps, pour qu'on essaie de finir pas trop tard cet après-midi, à 4h. Pour la pause, vous pouvez, ceux qui ont un pique-nique ou quelque chose, vous pouvez déjeuner ici. Vous avez rue du Bac, en prenant la petite rue en face de Saint-Thomas d'Aquin, une boulangerie, vous avez un Monoprix pour ceux qui veulent s'approvisionner. Il y aura une petite pause dans la matinée et dans l'après-midi aussi, où vous pourrez prendre un petit café. Il y a des toilettes ici et il y a des toilettes au sous-sol. Et la conférence du matin sera enregistrée. Donc ceux qui veulent la réécouter, vous pourrez la trouver sur la bibliothèque du CIF, comme d'habitude. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bon. Alors, je laisse Bernard.
Merci. Bonjour à tous. Bonjour à nos deux intervenantes. Merci déjà de vous être rendues disponibles. Alors, cette année, nous allons donc nous intéresser à l'orthodoxie. Vous savez que ces rencontres que nous faisons sont un peu cyclées, c'est-à-dire une année, c'est une rencontre d'une autre confession chrétienne, et l'année suivante, c'est une autre religion. L'an dernier, nous avions eu une journée très intéressante également sur non pas une religion, mais un phénomène religieux. C'était cette espèce de néo-religiosité autour du souci de soi, du care, de des énergies, vous savez, toute cette religiosité qui commence à devenir la première en France, quoi, au-dessus de toutes les autres confessions de religion établies. Donc cette année, nous sommes tournés vers l'orthodoxie. D'abord parce que l'orthodoxie, peut-être encore plus que le protestantisme, enfin les protestantismes, c'est quelque chose de fort important, puisque nous avons évidemment les conciles œcuméniques communs, et il y a deux poumons, comme disait, je ne sais pas si vous aimez cette expression, deux poumons, comme disait le pape Jean-Paul II, il faut apprendre à respirer à deux poumons. Moi, j'en suis assez d'accord de cette formule de Jean-Paul II, je sais qu'elle est un peu contestée, mais parce que l'Église d'Orient a beaucoup, je dis ça comme ça pour l'instant, mais vous préciserez, l'Église d'Orient a beaucoup, beaucoup à nous apporter, notamment parce qu'il y a une sensibilité théologique qui n'est pas du tout la même, il y a une efficacité des images qui n'est pas du tout la même, il y a une liturgie qui n'est pas trop la même non plus, et une ecclésiologie qui n'est pas trop la même non plus. Donc vous voyez, c'est quand même super intéressant, et je pense que sur tous ces aspects, nous aurions tout intérêt à interroger nos propres ecclésiologies, nos propres liturgies, nos propres conceptions des images, et se laisser interroger mutuellement. C'est le but de ces rencontres hein, que nous proposons tous les ans. Alors, je vous présente nos deux intervenantes. Sœur Anne-Marie Petitjean, bonjour. Alors, vous êtes membre du groupe des Dombes, auxiliaire du sacerdoce, on dit ça, ouais, c'est une drôle d'appellation, une congrégation de religieuses, docteur en théologie. Vous avez longtemps sévi au Centre Sèvres, et vous à l'Institut catholique de Paris. À l'Institut Saint-Serge aussi, très bien, bravo. Et donc, je vous présente aussi Julia Vidovic. Voilà. Donc, vous êtes aussi docteur en théologie, l'Institut catholique de Paris. On s'y était rencontrés une fois. Vous aviez fait dans des soirées de master sur l'écologie ou je ne sais quoi. Olivier Clément. Oui, voilà. Et puis, à l'ISEO, bien sûr. L'ISEO à l'Institut catholique, c'est l'Institut supérieur de théologie, je ne sais plus, études œcuméniques. Et l'Institut Saint-Serge de Paris, que j'ai fréquenté aussi quelque peu, j'y ai fait quelques conférences. Mais là, pour l'instant, à vous la parole. Encore une fois, merci et bravo d'avoir travaillé, parce que je sais que vous allez non pas faire des monologues, mais vous-même entrer en dialogue. Donc, dialogue entre vous, dialogue avec nous. Merci beaucoup.
Dans un premier temps, je vous propose de prier, d'appeler l'Esprit. Comme ça, ça marche ? Voilà. Donc, dans un premier temps, on va vous proposer de prier en appelant l'Esprit Saint sur notre journée. C'est une prière que, à Saint-Serge, donc l'Institut de théologie orthodoxe à Paris, on dit toujours avant de commencer un enseignement. Et il est repris aussi dans la liturgie, d'ailleurs. Et Julia va la dire une fois, seule. Et après, elle reprendra phrase après phrase pour que nous puissions aussi nous reprendre ces phrases. C'est une première manière d'entrer dans le monde de l'autre. Voilà.
Merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, c'est la prière adressée à l'Esprit Saint qui illumine les connaissances et le cœur pour pouvoir étudier, travailler, mais toujours dans la prière et l'attente de la révélation. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Je vais redire maintenant phrase par phrase pour qu'on puisse la dire ensemble. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité. Toi qui es partout présent et qui remplis tout. Trésor des biens et donateur de vie. Viens, fais ta demeure en nous. purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon.
Voilà, donc si vous voulez tout d'abord une petite introduction qui prolonge celle du père, je ne sais plus le nom, Bernard, voilà. Donc ce que j'ai appelé des éléments introductifs, un peu trois petites remarques. Entrer dans le monde de l'autre, c'est comme un voyage. On y rentre avec un repère important. Et une question, en tout cas je vais vous proposer ce repère important et d'habiter cette question. Et en final, je dirais que c'est un voyage à nos portes parce que ce sera aussi une manière d'en dire plus sur comment moi je me situe dans cette matinée. Donc, entrer dans le monde de l'autre comme un voyage, eh bien pour ce faire, chaque fois qu'on fait un voyage, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé beaucoup, à la fois on s'y prépare et à la fois on a tout à découvrir quand on arrive. Hein, c'est ce jeu entre les deux. On n'arrive pas en disant oui, « oui, je sais tout, c'est moi qui vais faire une conférence sur l'orthodoxie parce que je fais un voyage en Grèce. » Non. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on rencontre une autre église, mais ça pourrait être pour un autre groupe aussi, on entre vraiment dans un autre monde et c'est un autre pays de la foi. Alors, je vous propose de préparer votre voyage et de vous dire, pour l'instant, chacun en vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de visiter. Parce qu'en finale de la journée, vous pourrez y revenir et peut-être vous dire « Oh, mais ils ne nous ont pas parlé de ça, ben, ça me donne envie de continuer ». Ou au contraire, ben là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Ce n'est pas pareil ce qu'on lit sur Internet et puis quand on rencontre pour de vrai. Voilà, donc je vous laisse à chacun vous le dire un petit peu. Qu'est-ce que j'ai envie de visiter aujourd'hui? Qu'est-ce qui me pousse à faire ce voyage?
Commence un peu ce voyage. Entrer dans le monde de l'autre.
Voilà, donc je vous ai invité à préparer votre voyage, puis je vous ai tout de suite embarqué. Ça y est, j'ai atterri. Je suis entrée dans le monde de l'autre. Je dis, je vous ai invité à préparer le voyage, et puis voilà, tout de suite après, par cette vidéo, finalement, ben j'ai commencé à entrer dans le monde de l'autre. J'ai commencé à entrer dans le monde de l'autre. Peut-être un peu se dire en soi-même qu'est-ce qui a été touché en nous et qu'est-ce que je découvre aussi. Peut-être que ce à quoi je ne m'attendais pas. Vous pouvez vous dire d'où peut bien venir ces... Où puis-je contempler ces fresques? Quel voyage je peux faire pour aller m'y plonger? Hein, voilà. Donc on est rentré dans le monde de l'autre. Alors c'est important, c'est pas seulement connaître le monde d'un autre, c'est pas seulement avec des concepts. Connaître, découvrir la foi d'un autre chrétien, c'est pas seulement avec les définitions de la foi sur lesquelles on s'est plus ou moins comprise. C'est un monde vécu, un monde qui prend tout l'être. Et ça nous rappelle que connaître, hein, apprendre à découvrir, connaître un autre monde chrétien, connaître un autre, pour un mari connaître sa femme, pour connaître un autre peuple, etc. Finalement, il y a toujours trois niveaux dans le connaître. Et un des risques, et puis aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses à savoir, hein, que Julia va nous aider à faire, mais vous voyez, on voulait d'emblée vous dire que on pourra comprendre des savoirs que quand on aura aussi connu par le cœur, c'est-à-dire par un savoir-être, entrer dans un monde qui touche. Voilà. Et puis un savoir-faire, parce qu'il y a comment on se repère dans une église comme ça. Et puis si je participe à la liturgie, comment je vais faire le signe de croix? Et puis, je vais rester debout. On apprend. Ça, c'est l'apprentissage. Vous voyez, trois modes du connaître, le savoir, le savoir-faire, l'apprentissage. Le savoir, c'est l'instruction. Et le savoir-être, ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation, être plongé dans un monde et se laisser faire par ce monde. C'est ce qu'on vit dans les sacrements, dans la liturgie. Et ça commence par ce qu'on vit quand on entre dans une église qui nous plonge dans un monde. Voilà un peu, c'était ma... première remarque, donc je remets. Donc. Je voulais donc continuer ces remarques introductives en disant finalement avec quoi on fait ce voyage. Et je vous invite à le faire avec un repère et une question. Alors, le repère, c'est celui de l'universalité de l'Évangile. Et la question, s'il y a un unique Évangile dans une diversité de langages, comment on va l'entendre et qu'est-ce qui va nous relier? Et si on n'a pas cette question chevillée au corps, eh bien, on n'est pas encore entré dans la rencontre de l'autre, parce que si on rencontre, une première rencontre, c'est désirer la poursuivre. Voilà. Donc, l'universalité de l'Évangile, c'est une chose importante. Rappelez-vous la finale de l'Évangile de Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Et qu'est-ce qui se passe quand l'Évangile est accueilli ici et maintenant, dans un peuple, dans une culture, à un moment de l'histoire? Eh bien, si j'ai entendu une parole, ça fait partie de l'anthropologie la plus ordinaire, si vraiment on m'adressait une parole et qu'elle vient me toucher, eh bien, je n'ai qu'un réflexe et qu'un désir, c'est y répondre. Et donc, je vais parler, je vais chanter, je vais dire mon admiration, c'est la louange, je vais m'adresser à l'autre en lui demandant quelque chose, c'est la prière. Hein, voilà. Et donc, dans les peuples, l'Évangile reçu a généré des prières, des liturgies, etc., qui sont à chaque fois liées à leur langue et à leur culture. Autrement dit, parce que l'Évangile est universel, les églises locales ne peuvent être que particulières, particularisées par la culture qui a accueilli l'Évangile. Voilà, ce premier repère. Alors, la question, eh bien voilà, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, ces différences légitimes, hein, puisque l'évangile, c'est le même évangile qui a été entendu dans tous ces peuples, eh bien, il y a des différences légitimes. Mais pour des tas de raisons, et Julia va en dire quelques-unes, eh bien, les différences légitimes se sont muées en divergences séparatrices. J'attire votre attention sur ces deux vocables. La différence est légitime. Au cours de l'histoire, elle a pu se muer en divergences séparatrices. Et tout l'effort que nous faisons à l'heure actuelle, c'est dans toute la mesure du possible et chaque fois que possible, faire que les divergences qui ont été séparatrices puissent redevenir des différences légitimes. Peut-être avec des corrections, mais voilà, c'est ça qu'on vise. Hein. Voilà, parce que finalement, si on veut témoigner de l'Évangile, de celui qui a dit qu'il voulait rassembler les enfants dispersés, et pour ça que c'était une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière, qu'elle est la famille de Dieu, eh bien, c'est une urgence plus que grande de retrouver une communion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien aujourd'hui. Hein. La communion, c'est comme notre existence. On l'a déjà là en nous, et puis on va vers elle. Voilà. Du côté de Dieu, tout est donné. Du côté de nous, tout reste à accueillir et à faire vrai dans l'histoire, dans les cultures. Voilà. Voilà. Alors, la dernière chose que je voulais dire en introduction, c'est que avant, quand on pensait rencontrer l'orthodoxie, faire un voyage, on pensait vraiment faire un vrai voyage, prendre le train, prendre l'avion, etc. Eh bien, aujourd'hui, à cause des phénomènes migratoires, eh bien, l'orthodoxie est à notre porte. Et donc, Julia nous parlera des vagues migratoires. Hein. Mais moi, j'ai eu la chance d'être déléguée de mon évêque pour les relations œcuméniques dans le diocèse de Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Et il y avait 11 paroisses orthodoxes byzantines, plus d'autres églises orientales. Hein. En tout, j'avais 17 paroisses que je visitais régulièrement. Et c'est des lieux habités. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré une vidéo. Vous croyez qu'on était où ? On était à La Courneuve, dans une zone d'activité, dans un hangar industriel, qui, de l'extérieur, vous ne voyez rien. Et quand vous rentrez, toute l'architecture d'une église a été refaite. Et elle est entièrement peinte. Donc la vidéo que vous avez vue, ce n'est pas un grand voyage, il ne coûte pas cher, vous pouvez aller à La Courneuve. Ce n'est pas si facile à trouver parce que c'est en zone industrielle. Voilà. Et sur l'autre image, c'est une église qui est en construction à Montreuil. Et c'est une église dans le style moldave. C'est des Moldaves qui sont sous juridiction romaine. Et là, les icônes seront plutôt à l'extérieur, hein, voilà, pour témoigner du Christ dans le monde. Donc, voilà, je vous montre des lieux qui sont apparemment vides, mais ce qui peut aussi faire partie du voyage, c'est de découvrir combien ils sont habités. Là, vous avez une même image prise aussi à La Courneuve, le jour de la dédicace ou de la consécration de l'église. Vous voyez le monde qu'il y avait. Et à droite, ça, c'est pris au Blanc-Ménil. Dans le jour du premier dimanche de carême, qu'on appelle aussi fête de l'orthodoxie, où on vient avec des icônes de nos maisons, qu'on porte sur son cœur. Et voilà. Donc, c'est des églises pleines de monde. Et c'est important à savoir, parce que une fois qu'on n'est plus à Paris, qu'on est dans des banlieues comme celle de Seine-Saint-Denis, il peut y avoir un choc pour un catholique de découvrir des églises si vivantes et pleines de jeunes et d'enfants et de familles. Hein, voilà. Ça, on peut le voir dans certaines églises parisiennes, mais je peux vous dire, dans le 93, ce n'est pas tellement ce qu'on voit. Et donc, un des aspects de ce qu'on a à vivre, c'est qu'on partage quand même des églises. Il y a des églises où il se passe une liturgie orthodoxe et après, il y a la messe catholique. Et parce que ça, c'est, ils sont chez, là où je, les photos que je vous ai montrées, ils sont chez eux, mais il y a quand même plusieurs églises qui sont partagées. Et donc, un des travaux à faire sur nous-mêmes, c'est de ne pas croire qu'on est en concurrence et de se méfier de la jalousie consciente ou inconsciente. Voilà. Pour l'instant, ça va. Je laisse la parole à Julia.
Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette introduction à la façon de rencontrer l'autre, de le connaître, de essayer de comprendre. Je trouve que c'est un élément essentiel. Moi-même, je l'ai vécu. Donc, je suis d'origine de Serbie. Désolée pour cette manipulation. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. On va voir. Donc, je suis d'origine serbe. J'ai vécu tout au long de ma vie entre la France, la Serbie. Et disons que c'était à Belgrade, à la faculté de théologie, qui fait partie de l'université. Donc, c'est déjà un autre contexte. Quand on vient en France, la première chose qu'on se rend compte, ça ne fait pas partie de l'université, ça ne fait pas partie de vos formations ordinaires, la théologie, mais elle est indispensable. Pour moi, c'était un choc. Un autre choc était que, on avait des cours de théologie, on avait des cours de théologie comparée. On apprenait, on lisait énormément sur les autres, mais finalement, c'était un apprentissage des livres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous comprenez l'autre, mais vous le comprenez à partir de votre lecture de l'autre. En fait, vous le lisez uniquement dans vos cadres, dans vos repères, de la façon de penser la foi. Et je pense que ça, c'est peut-être un élément qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. C'est la façon d'être un peu sensible sur la manière dont l'autre, enfin, c'est, en l'occurrence, ça va être moi, explique sa foi. Et peut-être que vous allez vous dire, quand je pense à mon église, je la pense absolument pas comme cela. Or, ces gestes-là sont extrêmement importants et c'est ce que j'ai pu moi-même découvrir en venant à Paris. Donc, je suis arrivée, pourquoi en France, en tant qu'orthodoxe, on peut se demander, ce n'est pas ici forcément qu'on va découvrir l'orthodoxie et pouvoir travailler. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les pères de l'Église. Vous allez voir, à travers tout ce parcours, pour l'orthodoxie, c'est les pères. Et les pères, ça ne s'arrête jamais. Donc, on n'a pas vécu cette période de transition entre la patristique, donc, qui serait terminée avant le début de la période scolastique, où une approche de théologie se fait autrement. Pour nous, c'est un monde qui continue à vivre parce que, comme on a pu le voir à travers la prière de au Saint-Esprit, l'inspiration continue, ne cesse. Et puis, en ayant dit cela, les pères de l'Église, aujourd'hui, en tout cas en orthodoxie, tout en étant une source, sont reçus différemment. Donc, vous allez pouvoir les solliciter pour dire tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est aussi un élément, mais c'est la raison où je viens en France. En France, en arrivant à l'Institut catholique de Paris, le directeur qui me reçoit à l'époque, c'était Yves-Marie Blanchard, un père, vraiment un homme nourri par le dialogue, par la rencontre de l'autre. Il me dit, non, vous n'allez pas aller faire la patristique, vous allez à cet Institut supérieur d'études écuméniques. Je dis, mais voilà, je ne suis pas arrivée ici pour faire des études écuméniques, cela m'intéresse de approfondir la patrologie. Et finalement, j'intègre cet institut, et c'est à ce moment-là que j'avais l'impression que mes yeux s'ouvraient. S'ouvrait à quoi? S'ouvrait au monde de l'autre. En fait, je me rendais compte, mais on utilise les mêmes termes, on parle de la même théologie, on est forgé par nos histoires, ce qui est tout à fait normal. Les églises sont historiques, elles sont aussi impactées par le contexte historique, et on y reviendra. Donc, la façon dont moi je comprenais l'histoire, les événements importants de cette église, ça ne correspond pas à la réalité de ces églises. Enfin, ça ne correspond pas au discours qu'eux, ils tiennent. Alors, la déstabilisation, est-ce qu'ils disent vrai? Pourquoi ils le disent comme ça? Donc, toutes les questions de méfiance qui s'ouvrent pour en arriver à des amitiés. pour en arriver à comprendre le souci de l'autre, les complexités de l'autre. Et cela ne peut que se faire dans ce cheminement en commun. Donc le dialogue œcuménique dans lequel nous sommes engagés ensemble. Donc même à l'époque, j'avais Anne-Marie comme professeur de l'écuménisme, et c'était formidable. Et donc c'était des moments de rencontre, de partage de l'autre, de cheminement avec l'autre, qui nous permettaient effectivement de se sensibiliser aux récits les uns des autres et aux importances dans l'interprétation des uns des autres. Pourquoi je le dis cela ? Parce que je me rends compte, tout en étant orthodoxe, et je ne le cesse absolument pas de l'être, aujourd'hui, l'orthodoxie attire énormément de débats, ce qui est totalement compréhensible, vu la guerre en Ukraine. Donc tout le monde discute de l'Ukraine, tout le monde se met à discuter, mais qu'est-ce que ce patriarche à Moscou, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa pensée, puis qu'est-ce que ce patriarche à Constantinople, pourquoi ils se font la guerre, qu'est-ce que finalement cette église qui se dit une, et pourtant il semblerait qu'il y ait une totale division. Et une fois qu'on a posé des questions, on donne tout de suite des réponses, et quand vous êtes assise devant ces personnes, vous dites, mais je ne sais pas par où commencer à leur expliquer les réalités de ces églises et toutes les complexités. Donc, il y a, dans la journée d'aujourd'hui, aussi un désir de vous faire entrer dans la façon dont l'Église orthodoxe se pense, a été forgée au cours des siècles. Peut-être ce serait aussi une petite déformation de ma part, parce que j'enseigne les conciles œcuméniques et un peu cet aspect de l'histoire de l'Église. La patrologie, je ne vais pas vous saouler avec le père de l'Église. Mais je trouve que cette relecture historique et le dialogue œcuménique est également dans ce stade-là, entre nos deux églises qui sont extrêmement proches, comme vient d'être dit aujourd'hui. Donc les théologies, les questions dogmatiques sont vraiment plus ou moins résolues. Il y a des points de rencontre, de réflexion, et on travaillera ensemble un texte en commun, pour voir comment est-ce que cette rencontre se fait, mais pour pouvoir le travailler de près, on doit avoir certains concepts. Donc, cela me semble important de poser des grands traits. Le premier trait va correspondre un petit peu à ce que Anne-Marie vient de dire. Voilà, qui sont ces orthodoxes qui d'abord se retrouvent en France, puis on va élargir un petit peu le point pour voir comment cette orthodoxie est répartie à travers le monde, pour entrer à quelques éléments de l'histoire qui vont vous permettre en fait, de comprendre comment cette Église s'est forgée, comment elle est apparue et comment elle se définit. Donc, cela se fera en forme de dialogue, parce que c'est aussi important de voir voilà, comment est-ce que ça résonne entre nous deux, et on prendra aussi le temps pour... peut-être dans les pauses, se rencontrer, échanger, et même ici, en salle, voilà. Personnellement, je ne suis pas gênée d'être interrompue et qu'on me pose des questions. Voilà. Découvrir donc l'orthodoxie dans le monde et en France. Vous avez un polycopier, juste technique. On va prendre quelques éléments de ce polycopier, et puis je projetterai quelques images pour illustrer le propos ici. Donc, quand on regarde l'Église chrétienne, d'abord, c'est une Église chrétienne. Donc, le Christ est vraiment au centre de vécu de cette Église. Elle est l'une des trois grandes traditions qui constituent le christianisme, donc, avec le catholicisme et le protestantisme. Elle est pourtant la plus modeste, on pourrait dire, en nombre, parce que les statistiques ne cessent de changer. On dit qu'il y ait 350 millions de fidèles dans le monde. Et là, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'ils sont répartis et quels sont des lieux qu'ils occupent. Donc voilà, par les migrations, il se fait qu'on a des orthodoxes un peu partout. Un des éléments déjà historiques, c'est que l'Église, elle tient énormément à la tradition. Elle se veut être l'Église la plus ancienne. Donc, elle s'inscrit dans cette tradition-là. Elle y tient beaucoup. Et parfois, on peut même en aller dire, il y a un traditionnalisme, il y a une, comment dire, fermeture par rapport à des grands changements qui peuvent se traduire dans l'Église. Donc vous pouvez aussi avoir parmi les orthodoxes des propos « Ah, la Bible ne le dit pas » et on s'arrête là et on s'arrête peut-être à une interprétation de la Bible qui a eu lieu au IVe siècle. Voilà, je vais également approfondir ces points-là. En tout cas, ce qui est quand même important pour l'orthodoxie, elle se veut vraiment être la gardienne de ce berceau de l'Écriture sainte, de l'Évangile, de lieu où a vécu Jésus, de la région des premières missions qui ont été menées par les apôtres, donc déjà dans le berceau méditerranéen, autour donc de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie, c'est vraiment les grands centres, avec Rome, là en l'occurrence, on était tous unis, on va voir pourquoi la désunion a eu lieu. Elle se considère aussi comme héritière et la garante de la doctrine chrétienne qui a été formulée après la conversion donc, de l'Empire romain par les pères de l'Église, et les conciles qui ont eu lieu au premier millénaire. C'est pourquoi on appelle aussi l'Église des sept conciles, parce que depuis, elle n'a pas eu de concile écuménique. Donc. Orthodoxie, qu'est-ce que le terme veut dire ? Ça peut être maintenant, jusqu'à présent, on en a parlé de l'orthodoxie comme étant une confession. Mais le terme, étymologiquement parlant, est donc, constitué de deux mots grecs, orthos et doxa. Et simplement, si on se concentre un petit peu sur ce terme-là, orthos veut dire droit et doxa signifie la glorification ou opinion aussi. Donc il y a la pensée et la glorification, ce qui renvoie à une réalité qui pourrait être le centre de l'orthodoxie, croire correctement. Donc dogme, non pas être compris comme un dogmatisme, mais vraiment comme des formes de panneaux. Et on a un professeur de droit canon à l'Institut Saint-Serge qui souvent l'explique bien en disant, mais le dogme va vous dire comme si vous voyagez, vous prenez votre chemin pour aller à Strasbourg et il va vous dire, voilà, c'est la direction pour aller rejoindre Strasbourg, mais vous ne voulez pas sortir. Vous ne voulez pas prendre cette direction, vous voulez continuer. Vous êtes totalement libre, mais vous resterez en dehors. Donc, c'est une définition qui met un contour pour pouvoir vraiment comprendre les réalités de la foi. Après, viennent des opinions, des interprétations, mais elles restent au niveau personnel. Il y a un élément qui est reçu par l'ensemble de l'Église. Et on va voir assez rapidement quel est ce dogme. Il tourne autour de la Sainte Trinité, croire que Dieu est un et trine à la fois, et que le Christ est Dieu et homme à la fois. Or, cet dogme rejoint profondément le rite, la façon dont il est célébré autour donc, de liturgie, d'Eucharistie. Donc ici, vous voyez deux représentations. Donc, un peu particulière, reprise, oui. Oui, là, c'est une excellente question, mais le monde orthodoxe, et déjà à partir donc, du concile de Chalcédoine, donc, qui a eu lieu en 451, donc en 5e siècle, il s'est divisé. Donc, le monde, on va distinguer les églises orthodoxes et puis les églises orientales. Et c'est la raison pour laquelle la présence des orthodoxes, non pas des orientaux, est moindre comparée aux coptes qui sont de l'église orientale.
C'est-à-dire qu'ici, on va parler de l'orthodoxie byzantine, disons. Voilà.
Venons maintenant en orthodoxie en France pour essayer de voir comment elle est venue ici, comment on la rencontre sur place pour pouvoir aller plus loin. Donc, les premières mentions de l'Église orthodoxe en France sont liées au contexte diplomatique. Et ils datent de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Ainsi, dans les documents historiques, nous pouvons trouver des témoignages donc, de célébrations orthodoxes qui ont eu lieu à Paris lorsque l'empereur de Byzance, Manuel II, paléologue, y séjourne en 1400. Cela va être poursuivi par des chanceliers qui font venir des clercs afin de pouvoir aux besoins spirituels et religieux de leurs agents. Donc c'est vraiment une orthodoxie de diplomate. Et à mesure que la présence russe en France va se renforcer, un centre religieux va pouvoir et devoir s'organiser, puisque, afin de répondre aux besoins de leurs diplomates, l'Église va envoyer les clercs, les prêtres, pour pouvoir célébrer les offices auxquels ceux-ci participent. Quelques décennies plus tard, la cathédrale que vous voyez sur ce slide, qui est dédiée à Saint Alexandre Nevski, elle a été consacrée donc, en 1861, donc on est au 19e siècle. Elle se trouve dans le 8e arrondissement et les églises russes se sont peu à peu multipliées sur l'ensemble donc, de territoires français afin de répondre à la soif du religieux, d'une aristocratie russe qui était attirée essentiellement par les centres balnéaires tels que Biarritz et Nice. Donc vraiment, c'est cette population-là qui arrive en France. Et là, vous voyez une carte postale de Nice représentant la cathédrale russe. Par ailleurs, dès le 19e siècle, une communauté grecque va s'installer durablement à Marseille. À Paris, l'orthodoxie grecque est elle aussi une communauté d'ambassades. Donc, parfois, ces églises sont dans des petites ruelles, très difficiles de les prendre en image, mais on voit une des caractéristiques, que c'est quand même des immeubles assez importants en taille. La cathédrale Saint-Étienne, donc, que vous voyez sur cette photo, elle est érigée en 1895. Il est de même pour les Romains qui construisent leur propre lieu de culte en 1892. Elle est dédiée à Saint-Archange. À cette orthodoxie, qui est une orthodoxie de diplomatie du XIXe siècle, va succéder une orthodoxie de migrants, des migrants. En effet, les bouleversements géopolitiques liés d'abord à la révolution russe qui a eu lieu en octobre 1917 et à la Première Guerre mondiale vont façonner des spécificités de l'orthodoxie en France. Des foules de réfugiés russes et également grecs vont déferler. Ce flux s'explique par une forte demande aussi de main-d'œuvre des années de 1920. Selon les chiffres qui ont été publiés par la Société des Nations, 400 000 Russes viennent s'établir en France à cette époque. Alors là, les petites communautés paroissiales se multiplient dans la capitale et dans les différents lieux, comme par exemple, bassin ouvrier comme Lorraine ou encore dans les Alpes du Nord. Vous voyez la différence entre les grandes églises d'autrefois. Là, vous voyez l'église de Saint-Séraphin de Serov qui est située dans le 15e arrondissement et qui est beaucoup plus petite. C'est en forme de baraque ou ces petits garages qui sont occupés pour pouvoir y célébrer. Elle a malheureusement brûlé l'année dernière et c'est vraiment un désastre. Parce qu'elle abritait des objets liés à une sainte qui a vécu ici à Paris, une sainte reconnue par l'ensemble des églises orthodoxes, Mère Marie Skoptsov, sur laquelle je vais y revenir immédiatement. Une intense immigration grecque aussi vient à cette même époque s'installer en France suite au traité de Lausanne qui a eu lieu en 1923 et qui était une vraie catastrophe puisqu'il y avait un échange de population entre les Grecs et la Turquie qui avait lieu et c'est à ce moment-là que les Grecs de l'Asie mineure ont dû partir et une forte migration grecque s'installe. Les grands centres sont Paris, Lyon et Marseille, et puis ils vont partir majoritairement aux États-Unis. Donc là, aujourd'hui, on explique la grande importance de Grecs aux États-Unis et en Australie. Avec la Seconde Guerre mondiale, apparaît une immigration économique soutenue par un intense engagement social. Et ce dernier est notamment représenté par cette mère, Marie Skoptsova, ou Skoptsov, qui est morte en tant que martyr. Voilà, j'ai oublié de mentionner quand même l'Institut Saint-Serge qui devient un lieu de formation pour l'ensemble de ces communautés. Et je viens à Mère Marie Skoptsov. Elle est donc morte au camp de Ravensbrück en 1945, donnant sa vie pour préserver la vie d'une autre personne. C'était une moniale tout à fait passionnante, d'une flamme incroyable. Et ici, nous voyons le métropolite Antoine de Souroges témoigner de Mère Marie en disant qu'elle est une sainte de notre temps et pour notre temps. Une femme de chair et de sang habitée par l'amour de Dieu qui a su faire face sans crainte aux injustices du siècle. Et il y a des témoignages extraordinaires sur elle et sur sa vie. Donner un exemple, elle est allée retrouver une communauté des orthodoxes qui travaillaient dans une usine pour leur parler de Dostoïevski. On l'invitait pour un peu donner du souffle de motivation à tous ces gens. Et elle arrive, elle veut faire la conférence et on voit les personnes totalement désespérées de devoir rester encore pour écouter une conférence. C'est la seule chose qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux et travailler, enfin se reposer. Et elle constate, elle se dit, bon, je vois que vous êtes fatiguée, qu'est-ce que vous devez faire ? À faire les derniers nettoyages. Alors elle vient, elle prend le seau, elle se met à nettoyer les espaces avec eux, et à la suite elle a dit, dans ce témoignage qui a été rapporté, j'ai réussi quand même à dire aussi quelques mots sur Dostoïevski. Donc c'était une femme qui allait les matins chercher donc, ceux qui étaient ivres dans des bistrots, et pourtant qui fréquentait la haute intelligence russe de l'époque, Berdjaïev, Soloviev, enfin les grands philosophes de l'époque et qui étaient tous autour de l'Institut Saint-Serge. Pour montrer son actualité, je vous donne ici un petit passage tiré pour son temps. Et j'aimerais bien y revenir sur cela parce qu'elle montre aussi un témoignage pour le temps de nos jours. Elle écrit dans son texte sur le second commandement de l'Évangile. Il existe dans le christianisme une propension à recommander l'approfondissement de soi, le détachement, la station solitaire de l'âme devant Dieu. C'est notamment le cas au moment des grandes catastrophes historiques. Aujourd'hui, ces tendances semblent se manifester à nouveau, avec beaucoup d'intensité. Il en résulte une situation très étrange. D'une part, les diverses formes du mal convergent pour renforcer la puissance du collectif, de la masse, et rendre dérisoire, insignifiante, l'âme humaine dans son unicité. D'autre part, des âmes chrétiennes, déjà dispersées, désunies, s'enfoncent encore plus dans cette dispersion et cette désunion, au point que le monde devient pour elles un mauvais mirage, qu'il ne reste plus comme réalité que Dieu et l'âme solitaire, frémissante devant lui. Cet état d'esprit me semble scandaleux et redoutable, tant pour chaque personne en particulier que pour l'Église tout entière. Nous devons absolument nous élever de toutes nos forces contre cette attitude, éveiller les hommes les uns aux autres, les appeler à une présence communiante devant Dieu, les amener à porter ensemble leurs peines et à dénoncer ensemble les scandales. Un tel appel est justifié. Nous pouvons facilement lui donner les fondements les plus irréfutables, il suffit pour cela de puiser dans les différents champs de l'existence chrétienne. Donc, de nouvelles vagues à partir de cette période de Deuxième Guerre mondiale arrivent donc en France du Proche-Orient à cause de la guerre qui avait lieu au Liban dans les années 1975, et puis aussi les conflits en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, Kosovo, vont renforcer une présence orthodoxe yougoslave. Et là, vous pouvez voir une communauté serbe qui est située au 18e arrondissement pour une défaite. Et cette migration va se renforcer à partir des années 80 et au moment de la chute du bloc communiste. Et ça, c'est aussi une grande difficulté. Et Anne-Marie, tu avais soulevé cette question-là. C'est que les orthodoxes, vu ces différentes vagues, ils s'installent, il y a une inculturation qui se fait. Et puis, ils deviennent en fait des hommes et des femmes et des enfants de la France. Enfin, ils sont totalement... maintenant, il y a des générations qui sont venues les premières. La troisième génération qui a vu le jour et qui se sent entièrement française et qui fait partie de cette église. Enfin, sont restés orthodoxes. Mais néanmoins, le fait qu'il y a tout le temps de nouvelles venues de migratoires qui arrivent, il y a toujours ce contact aussi avec... les éléments de pays, donc les différences qui existent aussi entre les pays, qui vont faire déjà un gros souci pour les orthodoxes, parce que les orthodoxes vont rester en France, là, on est encore, centrés sur leurs petits problèmes, donc là, maintenant de nouveau, et chaque fois, réintégrer des personnes nouvelles qui arrivent, qui en arrivant apportent aussi une autre vision de ce que l'orthodoxie devrait être. Encore une fois, cette orthodoxie qui s'auto-interprète là où elle est située, où il s'agit des églises mères, et donc... cela fait que ça reste encore des lieux très closes sur elles-mêmes et sur leur nationalité ou leur culture propre.
Oui, l'aspect patrimonial des églises est très fort et c'est une des choses qui peut nous surprendre quand on rentre en contact avec telle ou telle communauté. Par exemple, la belle église moldave qui se construit à Montreuil, il y a le drapeau de la Roumanie parce que ces Moldaves, ils viennent des deux côtés de la République moldave qui était anciennement dans l'Empire russe, et puis ils viennent aussi de la région moldave de la Roumanie. Mais ils sont sous la juridiction du métropolite roumain pour l'Europe occidentale. Et bien, il y a le drapeau de la Roumanie qui flotte à l'intérieur comme à l'extérieur. Les amis serbes qui sont à Bondy, c'est pareil, dans l'église, hein, etc. Et puis... Les grandes fêtes, on vient en costume folklorique. Je pense que ce n'est pas pour eux du folklore au sens où nous, on l'entend pour eux, mais c'est très, très caractéristique. Vous allez un jour de fête, vous êtes vraiment ailleurs. Voilà. Et donc, la fonction sociale des églises est importante pour maintenir une identité patrimoniale pour des gens de diaspora qui se trouvent dispersés. L'église, c'est aussi le lieu où on se retrouve, où on va manger, et on va continuer à manger comme on mangeait au pays. Et une chose qui me frappe aussi beaucoup chez les Roumains, c'est que les églises qui sont construites, les matériaux viennent de Roumanie. Et si on fait une fête, la nourriture et le vin viennent aussi de Roumanie. Voilà. Donc, le souci de ne pas perdre une identité, de ne pas se laisser dissoudre dans l'expérience de migration est très important. Alors ça supposera aussi des études, pas seulement sociologiques, mais aussi théologiques à ce niveau-là. Oui. Alors je voudrais quand même dire que la première immigration russe a joué un rôle important pour l'œcuménisme, d'une part via Saint-Serge, de la faculté de théologie orthodoxe, où les grands penseurs ont été quand même en dialogue avec des penseurs catholiques, que ce soit de Lubac, que ce soit Congar, voilà. Et donc, dans Vatican II, vous allez trouver dans les schémas préparatoires de Vatican II pour la constitution sur l'Église, plusieurs fois, Afanassiev, qui était le grand théologien de l'Église, le renouveau de l'ecclésiologie orthodoxe, est cité en note, hein. On s'appuie sur lui pour penser l'Église locale, l'Église eucharistique, etc. Voilà, ça c'est un aspect. Mais à Lyon, ce qui s'est passé, c'est que les émigrés russes, dans leur pauvreté, ont touché le cœur des gens, notamment d'un prêtre qui s'appelle l'abbé Couturier, et que c'est de là que venue la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et la prière pour l'unité des chrétiens. C'est donc de ces chocs-là qu'il se passe des choses aussi. Voilà.
Oui, tout à fait important de le signaler. D'ailleurs, on avait eu un colloque sur la réception de dialogue écuménique et voilà, je n'aborderai pas ici davantage, mais on a montré l'importance de toute cette pensée russe donc, qui était vraiment très très proche avec Congar, Lubach, c'était des personnes qui étaient formées, par exemple le grand théologien orthodoxe qui est décédé récemment, le père Boris Bobrinskoy, qui a vraiment marqué la façon de dire l'orthodoxie en langue française. Il était formé chez les jésuites, enfin il a grandi en fait dans cette culture de dialogue, de rencontre et de réunion. Alors, on va se poser la question maintenant, donc, quels sont un peu les chiffres, quels sont les nombres, pas pour vous saouler davantage. Donc, il augmente, il ne cesse d'augmenter. Selon l'annuaire qui a été publié, annuaire de l'Église orthodoxe en France, que voilà, vous pouvez trouver même dans la Procure, ceux qui sont à Paris, 2021, il donnait le chiffre autour de 500-600 baptisés orthodoxes, soit français d'origine, puisque né en France, soit de nouveaux fidèles qui viennent de différentes migrations. Et puis, aujourd'hui, ce nombre augmente avec la nouvelle migration d'Ukrainiens. Donc ça, on le sent presque dans nos quartiers, dans les différentes aussi églises. Cette diversité entre des églises orthodoxes crée ce qu'on appelle la diaspora. La diaspora orthodoxe, c'est un terme qui est très complexe. Je ne pourrais pas entrer dans les questions canoniques qui le concernent, mais ils sont en totale contradiction, si vous voulez, avec les canons même de l'Église orthodoxe, qui consiste à dire il y a un évêque pour une ville. Alors là, vous avez en France, je ne saurais même plus dire le nombre exact, 9 ou... Oui, oui, voilà, 9 ou 10 évêques qui sont à Paris, soit des nommés, soit des auxiliaires. Donc, canoniquement, cela ne respecte pas les canons de l'Église. Néanmoins, ça révèle une réalité de l'Église. Donc, celle-ci va devoir se pencher sur cette question importante et elle y a déjà commencé. Donc, il y a un comité donc, entre les évêques qui a été constitué, qu'on appelle l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui avait vu le jour dans les années 60, où les évêques se sont retrouvés pour justement échanger sur les éléments de leur vie, de leur paroisse, sur la façon dont l'orthodoxie ou l'Église va pouvoir porter les questions qui animent la société française et échanger sur les éléments liés à les particulières églises orthodoxes en France.
Je voulais dire une petite chose, ça pourrait paraître comme une règle, pourquoi un seul évêque par ville, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Là, on entre dans une dimension un peu ecclésiologique profonde et mystique, c'est que l'évêque, en théologie orthodoxe, on va dire qu'il a une personnalité corporative, c'est-à-dire qu'il représente son église au milieu des autres églises, et en même temps, quand il est dans son église, il est le lien avec les autres églises. Donc, quand il y a plusieurs évêques, comment il représente l'unité d'une église ? Et comment, finalement, on est de la même église, mais on maintient une église serbe, une église roumaine, une église russe, une église grecque, etc. Et donc, c'est un des gros problèmes théologiques que rencontre aujourd'hui l'orthodoxie dans ce qu'on appelle la diaspora.
Aussi, c'est un point très important qui concerne les rapports écuméniques. Autrement dit, les églises orthodoxes se sont dit, si on y va sur ce principe territorial, cela voudrait dire qu'on va devoir créer une église locale française pour avoir un évêque et pour avoir donc non pas la dispersité des églises ou des fidèles selon leur appartenance nationale. Or, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait de l'église de Rome ? En fait, là, réellement, il y a le patriarcat de Rome. Donc c'est selon nos visions de territoire, on ne peut pas faire. Oui, oui. On ne peut pas faire une église locale là où il y a déjà une église locale. Le fait qu'on est divisé ne veut pas dire que cette division ne va pas être un jour abolie. Donc pour les orthodoxes, la présence de l'église catholique et de l'évêque est un élément fort. Bon, on entrera par la suite dans des questions théologiques parce qu'il y avait toute une discussion récemment lorsque pape Benoît XVI a enlevé le titre du patriarche d'Occident, qui était un geste bien reçu par les orientaux. Après, il a resté la question de souverain pontife. Alors là, il y a toute la question de l'ecclésiologie qui est derrière et sur laquelle, bien sûr, on va y revenir.
Souverain, c'est un des termes du Concile Vatican I. La souveraineté, ça veut dire un pouvoir absolu. Voilà. Et une juridiction immédiate sur toute l'Église dans le monde entier. Comme quand Jean-Paul II, prenant l'avion, disait qu'il va visiter sa paroisse en Asie. Donc là, on est au cœur de ce qui nous différencie dans la compréhension de l'Église. Voilà, ça va revenir.
Tout à fait. Donc ça, c'est simplement encore une fois pour sensibiliser et montrer que comment sur le terrain qui est là, ici en France, les choses se pensent de l'intérieur, mais également dans le rapport de dialogue, puisque cette journée est vraiment pensée entièrement dans forme de dialogue. Donc, la liste des juridictions, je pense que je vous en ai donné. Il y a le métropolite orthodoxe grec de France que vous voyez ici. Bon, c'est une ancienne photo, les personnes ont changé entre-temps. Il y a le diocèse de Chersonès du patriarcat de Moscou, c'est Monseigneur Nestor. Après, il y a le diocèse de l'église orthodoxe serbe en France, et ça c'est assez intéressant parce que c'est l'évêque qui avait remplacé l'autre fois l'évêque qui était malade, l'évêque Justin, et actuellement c'est le nouvel évêque serbe, donc il est ici. Diocèse métropole romaine d'Europe occidentale et méridionale, donc c'est Monseigneur Joseph qui est là, et avec son vicaire, Marc, avec donc diocèse orthodoxe bulgare d'Europe occidentale qui n'est pas représentée ici, métropole orthodoxe géorgienne d'Europe occidentale qui n'est pas sur la photo. Or, donc, la question de ce pluralisme de la diaspora orthodoxe en France a fait naître donc, une réflexion théologique aussi, sur la légitimité donc, de la présence de plusieurs évêques, comme cela vient d'être dit. Par manque de temps, on va sauter des choses et on va aller voir comment est-ce que les églises sont réparties à travers le monde. Là, vous voyez un petit peu les grands patriarcats et les juridictions. Ça, on y revient plus tard. Et propose de passer maintenant à cet enracinement historique des églises orthodoxes. Je ne sais pas si on fait une pause maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez ?
Peut-être on peut faire 5 minutes de pause pour que... Peut-être on peut prendre des mini-pauses hein, pour que finalement on se dise, bon, finalement, qu'est-ce qu'elle nous a dit, Julia ? Qu'est-ce que je viens d'entendre ? Parce qu'elle expose aussi à sa manière à elle, qui n'est pas forcément la nôtre, etc. Donc c'est important de se faire une pause pour dire peut-être j'ai envie de lui poser une question, ou bien au contraire, je dis qu'est-ce que je vais retenir ? Jamais on peut tout retenir, hein, mais je pointe la chose que je veux garder. J'ai peut-être appris une chose, hein, que ce soit par la tête, que ce soit par le cœur, que ce soit par la pratique, voilà, et ça je me la note, et puis on continue après donc, sur un peu d'histoire. On va rentrer dans l'histoire aussi des conflits qui ont marqué notre histoire commune.